Alors, je vais peut-être ouvrir directement avec la salle. Si vous avez une question que vous voulez partager dans l'espace de discussion ou mettre la main soit virtuelle, soit réelle avec votre caméra pour qu'on puisse ouvrir sur cet échange. Et il y avait peut-être pour est-ce que quelqu'un voudrait intervenir là tout de suite. On rebond, une question, un commentaire. Alors moi, ce que je pourrais vous demander, c'est comment gérer l'interactivité, puisque dans ces écritures, comment créer de la porosité dans un texte écrit? Est-ce que c'est un texte écrit poreux? Est-ce que ce sont des trames d'improvisation? Est-ce qu'il y a des passages obligés? Est-ce qu'il y a une écriture en arborescence par branche, comme en parlait Ariana F. Crosso-Cordone là, aussi bien pour le zoom que pour les formes sur lesquelles vous travaillez aussi, Catherine Richon?
Moi,
Ben,
je vais peut-être répondre pour les Escape Théâtre. On a essayé des choses très différentes, effectivement. On a aussi noir en direct. Donc les spectateurs ont envie d'y aller directement pour sauver la personne, mais ce n'est pas possible puisque c'est les écrans. Et puis mais ça provoque des réactions. Pour répondre à cette question de l'improvisation, oui, bien entendu, à partir du moment où il y a interactivité avec le spectacle, qui est donc mis en position d'un personnage qui interroge il est mis en situation. C'est-à-dire, c'est pas un spectateur comme ça lambda qui vient, il est mis en situation au départ par le meneur de jeu, enfin le personnage. Donc là, c'était un spectateur, mais dans le donjon, c'est Sganarelle qui demande donc au journaliste de l'aider à comprendre pourquoi Donjon est mort, parce que ça lui semble pas une mort naturelle. On a effectivement une trame. Et en général, les comédiens reviennent à trois reprises. Alors nous, tout en même temps, puisqu'on joue ensemble, il y a des dialogues entre les comédiens et c'est effectivement ce qui fait aussi l'action. C'est pas juste le comédien avec les spectateurs, c'est aussi le jeu qui est généré entre les personnages, qui s'insultent, qui s'embrassent, si je puis dire, ou qui se font des déclarations par fenêtre interposée. Et donc ça, c'est vraiment à trois reprises, on est dans une impro où on est obligé, entre guillemets, de dire ou de ne pas dire un certain nombre de choses pour pouvoir faire avancer l'enquête en dehors des passages filmés qui sont aussi des éléments qui sont apportés à l'enquête, joués par d'autres comédiens, mais qui là sont des choses enregistrées. À l'intérieur de ça, moi, ça m'a amusée et on a vraiment essayé de ramener à l'objet théâtre en greffant, pas en greffant, mais dans la mesure où, par exemple, sur Don Juan, j'ai repris la trame de Don Juan, les personnages de Don Juan, en partant de la mort de Don Juan, mais aujourd'hui. Donc on a effectivement tous ces personnages qu'on retrouve, Elvire, enfin Pierrot, etc. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on pouvait passer d'un langage improvisé actuel au langage de Molière. Et donc, pour vous donner un exemple très simple, Pierrot décrit comment il est devenu, donc puisque c'est un des suspects, comment il est devenu, donc il est fait à la sécurité sur le bateau, donc où Don Juan, qui est un réalisateur, célèbre le tournage du Festin de Pierre, son prochain film, etc. Et donc Don Juan, effectivement, le Pierrot, raconte comment il a retrouvé Don Juan dépouillé, tout nu, dans une cité, parce qu'il venait faire un repérage de tournage. Et là, il décrit les habits de Don Juan. Effectivement, on a repris la tirade intégrale des hautes-chausses, etc. C'est-à-dire que l'idée, c'est, pour le coup, de jouer l'anachronisme et de passer. Alors c'est toujours difficile hein, parce que l'acteur, il faut qu'il saisisse un moment où un spectateur lui pose la question, mais comment vous avez connu Don Juan, etc., pour glisser la tirade de enfin, la tirade, la grande description que fait Pierrot de l'habillement de Don Juan. Par exemple, il y a des citations dans d'autres. Voilà. Donc on passe effectivement, nous en tout cas, de l'improvisation au texte, mais volontairement cité de l'œuvre originale. Et Lewis Carroll, pareil.
Donc
Voilà.
là, c'est vrai que ça pose la question de la coexistence d'une écriture très écrite, très travaillée. Par exemple, on peut pas forcément, il y a des gens qui le font, mais c'est tout un exercice improvisé en alexandrin. Pour coller exactement à l'écriture, voilà. Donc il y a des contraintes dans l'interactivité, dans
Oui,
cette
ça n'en fait pas.
fluidité entre l'écriture déjà écrite et l'écriture improvisée écrite par les interprètes, ça en fait partie. Qui d'autre veut réagir ou sinon une question depuis la
par rapport à... Ah, vas-y, Catherine, je t'en prie.
Non, je voulais juste dire, par rapport à ta question précédente, donc Julien, de l'interaction avec le public, moi, par exemple, donc les formes de théâtre que je développe, souvent, c'est des formes sans quatrième mur où le public est vraiment intégré, parce qu'il y a la forme clownesque, même quand ce n'est pas des spectacles de clowns, souvent, j'aime bien avoir le public en vrai. C'est pour ça que, pour moi, ça tend vers la performance, le fait que le public soit là. Et donc, il y a le moment, est-ce qu'on veut que les spectateurs agissent ou pas, souvent moi j'aime bien que ça réagisse au moins et que ça, et donc moi souvent j'inclus des moments, par exemple je pose des questions au public, mais en réalité j'anticipe toujours les réponses possibles, enfin je pense que tout le monde fait ça un petit peu, enfin moi j'ai jamais eu de spectacle qui prenne un chemin ou un autre selon la réponse, mais en réalité le spectateur peut avoir l'impression d'agir alors qu'en fait j'ai déjà pensé avant, et c'est assez drôle à faire en fait, en réalité, de cet genre d'interaction là et sinon aussi pour nous les formes qu'on est en train de développer maintenant, c'est plus des formes physiques à l'extérieur, là des choses qu'on a faites récemment, on incite le public en fait à bouger avec nous en fait, et étrangement ça fonctionne assez bien. On a un projet l'autre jour à la Goutte d'Or où on jouait, on disait aux gens venez avec nous, et vraiment, ils venaient avec nous en train de bouger. Donc, c'est intéressant. Et sinon, je vous racontais qu'on a essayé dans la compagnie de faire justement on a fait des essais de spectacles Zoom. Et c'était une vraie question qu'on se posait sur que là, moi, quand Marion, je t'entends dire qu'il y a 100 spectateurs qui peuvent laisser leur micro allumé, je lui dis waouh, mais j'aimerais bien assister à un truc comme ça, parce que comment ça se passe. En plus, on sait sur internet, il y a toujours des trolls, il y a toujours des gens qui vont vouloir faire le show à la place du show, et ça doit pas être, ça doit être quelque chose à gérer tout ça, mais en même temps, c'est l'intérêt, parce que si c'est pour avoir le public qui regarde une vidéo, c'est pas intéressant. Voilà, puisqu'ils sont là, comment on peut les faire agir. On s'était posé la question. Ça m'intéresserait de vivre le moment pour savoir comment ça se passe.
Ils sont 100 répartis dans 3 salles. Donc, en fait, sauf à la fin où tout le monde se réunit, puisque les salles n'ont pas la même durée. La salle 1 finit plus tôt que les deux autres. Robert reste présent à l'écran et on a vu des spectateurs rester seuls dans cette salle, se recueillir. Même si les autres ont suivi le mouvement, enfin voilà, Liliane et Angèle allant à la fête ou à l'AG, ils ont suivi assez automatiquement les personnages, mais c'est pas toujours le cas. Par rapport à la plasticité, à la porosité de l'écriture dont tu parlais, Julien, y a cet exemple que j'ai cité précédemment de tirade un peu élastique, un peu énumérative, qui permettent d'accueillir l'entrée d'un comédien. Mais c'est des questions qu'on se pose aussi en écriture de plateau, dans un théâtre en présence, quoi. Il est pas rare parfois que dans les écritures de plateau, il y ait des répliques un peu longues qui permettent un changement de costume en coulisses pour régler comme ça une entrée. Et sinon, pour l'Assemblée générale, en établissant le texte pour l'édition, Guillermo Pisani a énormément écrit de repères. Donc, il y a de l'improvisation, mais c'est de l'improvisation dirigée. Enfin, voilà, il fait des listes de thématiques qu'on peut aborder. Il met sous forme de didascalie des hypothèses. Si le public ne se met pas d'accord sur le vote, dans ce cas, on orienterait la discussion dans une autre direction, etc. Donc, finalement, c'est très écrit, mais ça demande une souplesse et de l'improvisation pour les comédiens, évidemment. Parce qu'ils doivent aussi accueillir ce qui se passe. Sans arrêt, quoi. Et donc, c'est une double attention, quoi, de continuer à avancer, parce qu'il y a quand même une synchronisation à avoir, et tout en accueillant ce qui se passe, c'est extrêmement exigeant et jubilatoire aussi. Enfin, beaucoup de plaisir à faire ça.
Oui, moi, je voudrais juste préciser, parce que peut-être je n'ai pas précisé par rapport à cette question, que nous, effectivement, c'est évidemment une improvisation préparée aussi, puisqu'on sait ce qu'on doit dire ou ne pas dire, mais l'action n'avance qu'avec les spectateurs qui nous posent des questions. Et effectivement, l'improvisation, elle peut arriver sur des questions, pour vous donner un exemple très bête, mais à un moment donné, je jouais une informaticienne. Donc, je dévoile que je suis informaticienne au bout d'un certain moment, et prof d'informatique, Et à un moment donné, quelqu'un m'a posé une question pour me piéger sur une question informatique. Je suis, comme vous avez vu, une buse en informatique. Donc, effectivement, j'ai été obligée d'improviser. Alors, magistralement, en fondant l'arbre, en expliquant que j'étais en tôle, parce que je n'allais pas me répondre à une question si stupide, etc. Mais j'ai eu chaud, hein, parce que, effectivement, mais c'est très amusant. Au départ, je ne me suis jamais, moi, j'étais pas très mauvaise en impro quand j'étais comédienne, ces trucs. Donc, je pensais que jamais j'y arriverais. Et en fait, c'est une improvisation préparée, mais c'est quand même de l'impro et parfois. Mais nous, on n'avance que grâce au spectateur. Donc, on est effectivement dépendant avant tout de l'improvisation.
Et oui, sur le rôle, sur le modèle de l'escape. Armelle Talbot, je crois que c'est Armelle Talbot qui a une question. Oui.
Bonjour, merci beaucoup pour ces interventions. C'est une série de remarques très, très mal construites, hein. Mais d'abord sur la base de mes propres expériences de ces formats, puisque là, c'était pas du tout mon truc avant la grande crise, je m'y suis un peu mise et j'en ai dû voir 5-6, dont Là, tu me vois, qui m'a beaucoup intéressée. Et de fait, comme tu le disais, Marion, j'ai pas lu Barbara Fuchs, mais ça rejoint ce que tu disais. J'ai été surprise parmi les formes que j'ai vues, alors qu'ils ne font pas forcément symptômes, hein, parce que j'en ai vu peu en définitive, mais que la participation était rarement sollicitée. Donc, je trouve ça très intéressant là, qu'on ait des exemples. Et souvent, il y a une frontalité du coup extrêmement traditionnelle avec ce que ça peut impliquer d'assez glaçant dans le cadre zoomesque, là où on pourrait se dire que les gens de théâtre sont quand même les plus à même de savoir investir cette forme et ce que ça implique de canevas préconstruits, d'improvisation à l'intérieur du canevas. Enfin voilà, c'est de la farce. Il y a plein de formes théâtrales qui fonctionnent historiquement comme ça. Et du coup, ce type d'outil 2.0 permet complètement de réinvestir ces fondamentaux du langage théâtral. Et donc voilà, moi j'ai vu des choses très. Enfin, pas inintéressante, mais souvent assez froide et nous laissant dans un pur rapport contemplatif à ce qui se passe et la contemplation entraînant assez souvent l'endormissement sur ce format-là. Voilà, donc ça, c'était une première remarque. Et puis, ma deuxième remarque, c'est par rapport au cinéma qui m'intéresse aussi et au genre du desktop movies. Donc les films qui se passent sur des bureaux d'ordinateur, hein, qui est un genre qui s'est beaucoup développé dans la série B, le slasher movie, etc., qui est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup la série B. Et qui travaille sur ce dont tu parlais, Marion, c'est-à-dire quand il se passe quelque chose de l'autre côté de l'écran et qu'on ne peut pas intervenir. Enfin, voilà, ça reprend un peu des fondamentaux là encore du film d'horreur où on veut prévenir la victime et on ne peut pas, etc. Et qui joue aussi sur le problème technique, sur la pixelisation, sur l'image qui se frise. Et ça aussi, je trouve ça très intéressant, cette façon de travailler sur le brouillage de l'image et puis surtout ce qui fait quand même nos embêtements quotidiens avec cette technologie pour travailler sur la spectralisation des présences, sur, comme c'est souvent des films qui parlent aussi de morts, de fantômes, c'est des histoires de maisons hantées, etc. Et donc, du coup, le médium numérique permet aussi de hanter la transmission, de faire qu'il y a la friture sur la ligne, des invités qu'on ne veut pas et qui sont là quand même. Et je n'ai pas trouvé, mais c'est sans doute parce que je peux... Voilà, je ne suis pas partout, de formes qui, pour l'instant, exploitent beaucoup ce fil-là. Alors, c'est déjà présent un peu dans « Là, tu me vois », je trouve, d'une certaine façon, à travers… ça joue aussi de la coprésence et de notre incapacité à intervenir. Mais voilà, c'était une réflexion, une passerelle et puis une curiosité, si vous avez des exemples en tête qui sont peut-être assez… plus expérimentaux du point de vue des formes et qui vont frayer sur ces voies-là. Voilà.
Je n'ai pas d'exemple à fournir pour Armelle, mais ce que je viens d'entendre m'a fait me souvenir de ma pièce, mon solo pour femme morte, où en fait, ce que j'aime bien le réel, où j'avais fait venir plutôt dans une procédure inverse, j'avais fait venir l'extérieur dans ma pièce. Par exemple, je jouais avec la radio. Plusieurs moments, j'ouvrais la radio et avec vraiment ce qui se passait à la radio et la friture aussi qu'il peut y avoir. C'est parce que je t'ai entendu parler de fantômes et de friture. Voilà ce qui se disait, parce que parfois il y avait des discours et c'était marrant, il y avait toujours des résonances assez étonnantes avec ma pièce ou des musiques, des choses comme ça. Et aussi, comme je mourais, j'ai joué une femme morte, j'avais trafiqué ma radio pour qu'à la fin il n'y ait plus de la friture et qu'il n'y ait plus rien, et on comprenait qu'il n'y avait plus de vie. Et aussi, ce que j'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, c'est pas si important que ça, mais ça, c'est quand même un peu drôle. Mon solo pour femme morte, c'était début des années 2010 et j'avais déjà un petit peu ce goût quand même d'essayer des trucs, et j'avais inventé de diffuser ma pièce sur Chatroulette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Chatroulette, ce site de rencontre en ligne un peu bizarre où on tombait sur des gens de tous les pays du monde, alors souvent sur des trucs un peu étonnants, et souvent des gens par groupe. Et donc, en fait, je mettais un ordi, je ne l'ai pas fait à chaque fois, mais je l'ai fait quelques fois, c'est assez drôle. Je mettais un ordi avec une caméra, donc forcément en plan fixe. Et donc, l'idée, pour ceux qui ne connaissaient pas Chatroulette, c'est qu'on tombait sur n'importe qui dans le monde, mais en fait, très peu de gens qui parlaient français. Et on pouvait scroller si les gens ne nous plaisaient pas ou si l'image nous était un petit peu trop étonnante. Et des fois, on était en train de parler avec des gens qui, tout d'un coup, nous faisaient... Et donc, ça défilait. Et donc, la pièce, et donc, j'imagine que les gens faisaient défiler et donc tombaient sur cette chose un peu étrange qui était ma pièce sans trop savoir ce que c'était. Voilà. Des essais comme ça, purement... Du coup, j'ai jamais... Le temps que la pièce se finisse, j'ai jamais eu le retour après des gens après. Mais voilà. C'est des petits essais comme ça.
Merci, merci Catherine pour ce partage qui me fait particulièrement plaisir aussi, puisque mon premier réflexe au confinement a été d'aller sur Chatroulette pour faire la tournée des situations dans le monde. Et c'était en effet toute une aventure. Je crois qu'il y a Mathilde Gentil, ça va dans le retour aux fondamentaux dont on a parlé plusieurs fois depuis ce matin. Donc Mathilde Gentil, une question ou un commentaire?
Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces présentations, communications. Voilà, c'est quand vous avez dit, Marion, qu'il y avait depuis un moment, en fait, depuis qu'on utilise des ordinateurs, des performances en ligne qui ont été faites, notamment voilà, dans toute la mouvance du net art. Et du coup, vraiment, ce que je me demande, c'est comment et en quoi l'utilisation des outils numériques par les acteurs du spectacle vivant est différente, est spécifique et s'éloigne de la question du net art, ou au contraire, la poursuit. Et dans ces cas-là, est-ce que il nous manque quelque chose? Enfin, voilà, c'est... Et je pense intuitivement que la question de l'interactivité est vraiment au cœur de la réponse, et qu'on est peut-être, qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à explorer dans la relation à distance via un outil numérique. Voilà, c'est une réflexion et question que j'ouvre et qu'on continuera certainement aussi de creuser dans l'unité thématique distancielle numérique. Voilà, merci beaucoup.
Moi, je dois avouer que je connais assez peu hein, le net art. Donc, c'est plutôt des complémentarités qui se jouent. Enfin, par exemple, Force Entertainment, ils font des choses très plastiques, ils cachent l'écran, ils font apparaître des choses. Enfin, voilà, donc il y a ce travail. Oui, proche de l'installation plastique. Quand on arrive dans la salle concert du karaoké de Pisani, si on ne chante pas le karaoké, on observe quelque chose qui n'est pas une action théâtrale. Donc, on est proche d'une installation, par exemple, je trouve. Et une des caractéristiques, en tout cas, de Là, tu me vois, c'est les lignes narratives. C'est d'utiliser Zoom pour démultiplier les lignes narratives et les potentialités de fiction. Voilà, ce que font pas forcément tous les gens du net art, mais j'avoue que je connais pas très bien ces exemples. Donc je vous renvoie au texte de Julie Valero qui était dans un numéro de registre sur les modèles de représentation, où elle a trois femmes artistes qu'elle convoque, et c'est assez intéressant. Voilà, je monopolise pas plus le temps vu qu'il y en a peu. Et Armel, j'ai pas d'autres exemples, mais dans le livre de Barbara Fuchs, par rapport aux effets techniques, il y a beaucoup de choses en fait sur les filtres, le brouillage, etc. Tu trouveras sûrement d'autres exemples.
Moi, je me permets d'intervenir juste un peu par rapport aux deux réflexions. Je pense qu'effectivement, pour moi, c'est vraiment une forme théâtrale. C'est-à-dire que je pense que c'est... Alors bon, je ne connais pas non plus le net art particulièrement, mais pour moi, c'est une nouvelle écriture théâtrale. C'est un nouveau jeu théâtral aussi pour répondre à la réflexion d'Armel. C'est-à-dire qu'on n'est pas justement dans le contemplatif, parce que si on est dans le contemplatif... avec ce système d'écriture et de rapport aux spectateurs, c'est compliqué d'abord parce que souvent ils n'ont pas le code du théâtre. Enfin, nous, en tout cas, on a beaucoup joué avec des universités, on a joué avec des médiathèques, on a joué avec des villes, et parfois avec des théâtres, mais la plupart du temps, on s'adresse à des gens qui ne vont pas au théâtre, qui ne vont plus au théâtre, qui vont mal au théâtre. Donc effectivement, nous, on leur demande de couper leur micro, etc. Sauf quand ils apparaissent pour poser des questions, parce que sinon, ils sont comme devant un écran, c'est-à-dire que sinon, ils parlent en même temps et ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est qu'ils interviennent de façon volontariste en allumant leur écran et donc en posant des questions. Et c'est ce travail justement d'interactivité fondamentale et fondatrice aussi par rapport à l'acteur qui, pour moi, fait refonctionner le théâtre et remet du vivant dans quelque chose qui, sinon, effectivement, en étant pire que frontal, hein, enfin, étant dans ce rapport derrière une vitre, nous ramènerait à Netflix. Et on a eu souvent des réflexions spéciales qui disaient « Ah ben oui, ça n'a rien à voir avec Netflix ». Et on voit d'ailleurs, dans les réactions, parce que c'est très compliqué, on voit le chat en même temps des gens qui, pendant qu'on joue, commentent. Et ces commentaires, c'est souvent « Ah ben c'est incroyable, ils pleurent ». Parce qu'effectivement, on pleure pour de vrai, pour de vrai, pour de faux, mais on est en direct. On n'est pas comme au cinéma où on pleure, et bon, c'est déjà enregistré, il y a pas... Voilà, donc c'est... y a quelque chose, effectivement, de... Et puis surtout, les gens s'amusent beaucoup de nous voir jouer, puisqu'on nous voit jouer, forcément, puisqu'on est en direct, et qu'on parle avec eux, et qu'eux, ils jouent pas. Enfin, ils sont mis en situation, mais eux, ils sont Julien, d'ailleurs, qui nous pose une question, et voilà. Voilà, donc c'est pour moi, c'est vraiment une forme théâtrale. Enfin, en tout cas, nous, on l'a vraiment réfléchi, on continue à réfléchir comme une forme théâtrale, une nouvelle écriture théâtrale qui sort qui revivifie le rôle du spectateur.
Merci.
Oui, je suis d'accord. C'est une autre écriture à penser comme un organisme où il y a de l'image, du cinéma, du texte, de la participation. Voilà, toutes ces choses sont dans des relations dynamiques et complémentaires. Et ça crée un espace de rencontre. Enfin, à la fin de Là, tu me vois, il y a des salles ouvertes où on peut discuter parce que personne n'a vu le même spectacle. Donc, ça, c'est important aussi de réactiver cette convivialité-là.
Merci Catherine Richon, Isabelle Starkey et Marion Boudier pour ces échanges passionnants. Je note que la question de l'interactivité est extrêmement présente quand il s'agit des écritures spécifiques aux formes qui ont été développées, réactivées ou inventées au cours de cette crise sanitaire. C'est vrai que ça, c'est pas forcément étonnant aussi par la manière dont elle nous a séparés et isolés. J'étais très intéressée par cette idée de, on voit que ça se passe et on ne peut pas intervenir. Alors que c'est vrai qu'au théâtre, c'est vraiment ça la différence, c'est qu'on peut vraiment intervenir. Je pense à Guignol, qu'on peut toujours prévenir quand Niafron est en train d'arriver, alors que c'est vrai qu'à travers ces interfaces, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas aussi évident. On ne peut pas empêcher de décrocher le homard, comme dans cette pièce de Rodrigo Garcia où une spectatrice s'était levée pour empêcher que le homard ne soit plongé dans l'eau bouillante. En revanche, c'est vrai que vous avez aussi évoqué les trolls, et que le parasitage et le trolling, ça existe et que c'est peut-être une des formes d'interactivité désirée, non désirée de ces formes-là. Et ça nous amène vraiment à la suite de cette journée et à la session distancielle numérique qui va suivre.